18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne du lundi au jeudi, de 18h à 19h. Ce soir, on accueille Barbara, chargée de communication et de billetterie au Macorlan, qui nous parlera du Macorlan, de cette saison et des projets à venir. Ensuite, on écoutera un reportage de Sam, qui traite de l'art dans la manif à l'occasion du mouvement du 18 septembre. Mais avant cela, Michael, un bénévole de la radio, nous a concocté un petit reportage sur la cérémonie du 69e Ballon d'Or au théâtre de Châtelet, car il était sur place grâce à son activité de photographe. Il nous raconte sa journée.
Il est 9h du matin lorsque le théâtre du Châtelet ouvre ses portes afin de permettre aux journalistes de venir récupérer leur accréditation pour la cérémonie du 69e Ballon d'Or. Ne voulant être ni le premier ni le dernier, j'arrive à 9h20 et je récupère mon accréditation à 9h40 aux côtés de Valdemar Kita, le président du FC Nantes. La salle de presse ouvrait à 11h, c'était le Zimmer, une brasserie mitoyenne au théâtre du Châtelet, qui avait été privatisée et reconvertie pour l'occasion. J'arrive vers 12h20, juste avant Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui était alors le seul à connaître l'identité du vainqueur du Ballon d'Or 2025. En tant que photographe ou photojournaliste, je n'ai pas accès à la cérémonie au théâtre du Châtelet pour des raisons de droit d'image et de droit télé. Je me renseigne donc auprès d'une hôtesse de l'organisation afin de savoir si nous, les photographes, pourrions avoir accès aux vainqueurs du Ballon d'Or à l'issue de la cérémonie afin de les prendre en photo avec leur beau trophée. Après quelques minutes de renseignement, elle m'informe que la réponse est négative, on a juste le tapis rouge, mais c'est déjà très bien. Pendant que je suis au Zimmer en train de préparer mon matériel, je suis assez surpris de voir que la place du Châtelet est bien achalandée dès 14h30-15h. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont fait l'école buissonnière pour assister à l'événement et qui chantaient à la gloire d'Ousmane Dembélé. Je suis également surpris de voir que la salle de presse est vide. Il y avait quasiment autant d'hôtes et d'hôtesses que de journalistes, mais j'allais vite déchanter à l'issue de la cérémonie. À partir de 17h, les photographes commencent à être placés sur le tapis rouge et la deadline courait jusqu'à 18h30 pour être installés. Le défilé des stars commençait à partir de 19h. Lorsque le défilé commence, des stars de tout type paradent sur le tapis rouge, comme des influenceurs tels que Ibai Llanos, l'énorme streamer espagnol, Anime, le phénomène du Twitch francophone, ou encore Michou, le youtubeur aux plus de 10 millions d'abonnés. Des personnalités publiques comme Son Altesse Charlène de Monaco, DJ Snake, ou encore Charlotte Gardin qui a ouvert la cérémonie avec son titre Feel Good. Mais surtout des légendes du foot, et c'est ce qu'on voulait voir, comme Luis Figo, Marcel Desailly, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, accompagné par son adjoint Guy Stéphan, Gianluigi Buffon, Andrés Iniesta, Fabio Capello, Ruud Gullit, ballon d'or en 1987 et co-présentateur de la cérémonie, et surtout Ronaldinho, ballon d'or il y a 20 ans, qui allait remettre le trophée cette année. Certains clubs avaient amené une délégation, comme Liverpool avec Alisson Becker ou Virgil van Dijk, l'Inter avec Yann Sommer ou Denzel Dumfries, le PSG bien évidemment avec son président Nasser El Khelaifi, Joao Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui ne pouvaient pas jouer le classique qui se déroulait au même moment à Marseille. Et enfin le Barça qui avait la plus grosse délégation, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Alexia Putellas et Aitana Bonmati, qui allaient remporter un troisième ballon d'or consécutif, étaient présentes. Chez les hommes, l'entraîneur Hansi Flick était là, les phénomènes Rafinha et Pau Cubarsí aussi, mais la grande attraction c'était Lamine Yamal qui finira finalement deuxième au classement, et le président Joan Laporta était là également. Le défilé sur le tapis rouge s'est terminé juste avant 21h et le début de la cérémonie. Entre-temps, le Zimmer qui avait été vide tout l'après-midi s'est rempli au point qu'il était très difficile de trouver une place. Beaucoup de photographes sont rentrés chez eux. Par chance, j'ai trouvé une place de libre aux côtés de la RNE, la radio du service public espagnol. Pendant la cérémonie, j'envoyais les photos que j'avais prises lors du défilé. Le temps passait à une vitesse folle, à 22h45. On sait que le Ballon d'Or se joue entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et lorsque Ronaldinho, qui paraissait d'ailleurs un peu affaibli, a annoncé le résultat, les journalistes espagnols étaient un peu déçus, mais s'attendaient au résultat final. Ils s'attendaient à voir Ousmane Dembélé, qu'on a bien connu à Radio U à l'époque où il jouait à Rennes, soulever le 69e Ballon d'Or. Je rentrais chez moi, j'avais envoyé une centaine de photos depuis la salle de presse et je devais encore terminer d'en envoyer quelques-unes. J'ai terminé à 3h du matin pour conclure une belle journée de 18h. Mais après tout, qui a besoin de sommeil pour le Ballon d'Or ?
C'était un reportage de Michael Piatta sur la cérémonie du 69e Ballon d'Or. Merci pour ce reportage, Michael. Vous écoutez Radio U, notre quotidienne, c'est vous qui le dites. Restez avec nous car Barbara, chargée de communication et de billetterie au Macorlan, nous a rejoint dans les studios. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Comment s'est passée la rentrée au Macorlan ?
Eh bien, la rentrée s'est passée plutôt bien. On a fait un super lancement de saison le 5 septembre où on a reçu plus de 100 personnes pour présenter notre saison et un extrait d'un des spectacles qui sera programmé en mars au Macorlan. Donc on est ravis.
Alors, au Macorlan, il se passe plein de trucs. Il est ouvert à toutes les disciplines artistiques, c'est hyper riche. Danse sous toutes ses formes, mais pas que. Il y a un temps fort de cirque prévu cette année. C'est aussi un lieu de rencontre entre artistes. Il a ouvert ses portes en 2011, donc il y a plus de 10 ans. Racontez-nous un peu le commencement.
Alors, au tout départ, le Macorlan, ça a été ouvert en 1960. Non pas sous la forme d'un théâtre ou d'une salle de spectacle municipale, mais comme un cinéma. Donc peut-être que les parents ou les grands-parents des Brestois ont connu ce lieu. Ensuite, la ville de Brest a décidé de réinvestir cet espace qui était quand même assez grand et puis très bien placé, puisque c'est au cœur de Recouvrance. Donc en 2008, la mairie l'a récupéré, a fait des travaux et a effectivement inauguré cette nouvelle salle de spectacle en 2011.
Macorlan, c'est un écrivain français dont le genre de prédilection sont le fantastique et le roman d'aventure. Des récits qui nous font nous évader, comme lorsqu'on va voir un spectacle finalement. C'est voulu ce lien ?
Alors ça, il faudrait demander à l'équipe municipale qui à l'époque a repris le lieu sans vouloir le renommer. J'avoue que là tu me poses une colle, je peux pas te dire pourquoi ils ont souhaité faire un clin d'œil à ce monsieur. Alors tout ce que je sais c'est que souvent ces intrigues se passaient dans les rues de Brest. Alors est-ce que ça se passait particulièrement en Recouvrance ? Ça j'avoue que j'ai jamais lu ces livres. Mais voilà, c'est chouette, on aime bien Macorlan, il y a une station de tram qui s'appelle comme ça.
Bon bah voilà.
Alors
on voit grâce à vos tarifs, pas plus de 11 € par spectacle et un abonnement à la saison à 14 €. Que vous soutenez et facilitez l'accès à la culture. C'est chouette. Nous, on pense forcément aux étudiants à Radio U, à qui ça profite largement. Quelles autres actions organisez-vous dans cette direction ?
Alors effectivement, le Macorlan, c'est une salle municipale, je l'ai dit, donc ça veut dire que c'est géré par la ville de Brest. Et de ce fait-là, l'ouverture à la culture et l'accès à la culture pour tous, c'est évidemment quelque chose qui est important. Donc le Macorlan met des tarifs très très préférentiels, tu l'as dit, hein, le maximum c'est 11 € et au tarif réduit je crois que c'est 9, ouais, donc tarif réduit auquel évidemment les étudiants ont le droit, c'est 9 € maximum, donc on a vraiment normalement pas de problème financier, en tout cas le frein est pas financier pour venir voir les spectacles. Et les autres actions qu'on peut mener c'est plutôt de ce qu'on appelle de la médiation culturelle ou des actions culturelles avec d'autres établissements socio-éducatifs ou autre en fait de la ville de Brest. Je vais penser par exemple aux maisons pour tous, au patronage laïque, où là on met des tarifs de groupe en place. C'est gratuit pour les accompagnateurs. Donc l'idée c'est vraiment que tout le monde ait accès à la culture sans aucun frein financier. Et puis tu l'as dit, le Macorlan c'est pas que de la danse. Alors c'est principalement de la danse, son projet artistique c'est quand même autour de cette discipline. Mais il y a aussi du théâtre, des musiques, enfin des concerts. Je pense pour ceux qui sont vraiment brestois depuis longtemps, c'est pas vraiment un truc d'étudiant, mais il y a une chorale municipale, peut-être de grands-parents, qui s'appelle les Tréteaux Chantants. Donc ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc normalement pour les retraités. Enfin, c'est une chorale de retraités, il faut avoir 60 ans pour y participer. Mais pareil, c'est gratuit. Il y a plein de choses aussi gratuites faites au Macorlan. Donc encore une fois, l'idée c'est que c'est une salle aussi où on se rencontre, où on va voir des spectacles, où on va voir des trucs, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce que c'est, mais au pire des cas, on n'a pas dépensé beaucoup de sous, voire rien, et on découvre quelque chose de chouette.
C'est quoi le prochain concert par exemple au Macorlan ?
Alors c'est quand même pas notre ligne artistique principale, les concerts, mais qu'est-ce qu'on a ? Alors si, il y a un concert le 19 octobre avec Plage Magnétique dans le cadre de l'Atlantic Jazz Festival. Et c'est une chanteuse qui s'appelle Célia Kameni. Voilà, c'est une chanteuse de jazz qui a gagné des victoires du jazz ou des victoires de la musique du jazz, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Donc là, c'est organisé par Plage Magnétique. Donc les tarifs vont être un peu plus élevés, c'est pas des tarifs. En fait, quand le Macorlan, c'est pas sa programmation, quand on loue la salle à d'autres partenaires, par exemple Plage Magnétique dans le cadre de son festival, là ce sont ses tarifs qui s'appliquent. Mais je crois que le tarif est pas non plus hyper élevé puisque c'est 11 euros en tarif réduit. Donc
Ok.
pareil, c'est un, voilà, c'est un concert. Donc là, plutôt aller plutôt regarder sur la programmation de l'Atlantic Jazz Festival pour ceux qui apprécient le jazz. Célia Kameni, le 19, dimanche 19 octobre au Macorlan.
Dans cette saison 2025-2026, c'est, je vous cite, 60 spectacles et ateliers, 5 résidences artistiques, 2 festivals de danse contemporaine, un temps fort hip-hop, un temps fort art du cirque, mais aussi 6 spectacles jeunes publics et 10 ateliers hors les murs. Alors ça montre qu'il se passe vraiment beaucoup de choses au Macorlan. Tout le monde devrait trouver chaussures à son pied normalement.
Je suis
Est-ce que vous
d'accord.
pouvez nous parler un petit peu de la programmation?
Alors complètement, on le disait, hein, le Macorlan, c'est de la danse. Toutes les esthétiques de la danse, donc de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, de la danse swing, puisqu'on a un temps fort swing au mois de mars. Et puis c'est aussi du théâtre, puisque encore une fois, le Macorlan accueille des autres compagnies ou d'autres choses sur sa scène. Donc il y a du théâtre, il y a des concerts, on l'a dit. Il y a des programmations effectivement jeunes publics. Donc là, c'est des programmes plutôt à destination des petits ou des enfants, où là, l'avantage, c'est que c'est un tarif unique pour toute la famille, c'est 6 euros. Donc là, de nouveau, on retrouve notre idée de laisser la culture accessible à tous, peu importe son budget. Donc notre premier grand temps fort, il va arriver très vite, puisque c'est le premier festival de danse contemporaine du Macorlan, son premier temps fort, qui s'appelle Contretemps. Donc, il y a un festival qui est vraiment orienté sur les artistes et les compagnies émergentes en danse contemporaine. L'idée, c'est de donner sa chance en fait à des artistes qui créent leur premier spectacle ou qui sont peu encore montrés, peu visibles puisque émergents. Et le Macorlan leur permet de se produire sur le plateau. Et vu que le Macorlan, c'est quand même une scène qui est un peu connue, et ben, il y a d'autres professionnels, d'autres salles, d'autres villes qui viennent voir ces spectacles. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ensuite, et ben, ils soient programmés, ces compagnies. Alors, la plupart des artistes sont finistériens, pour contretemps. Donc, au Macorlan, il y a deux soirées qui sont dédiées à ces artistes émergents, le vendredi 10 octobre et le samedi 11 octobre. Donc là, la proposition est assez chouette, puisque pour 9 euros, au tarif étudiant, c'est 9 euros, on voit deux spectacles. Donc, il y a deux spectacles, un à 19h et l'autre à 20h30. Et donc pour 9 euros, on a accès, voilà, à des spectacles qui sont encore jamais montrés, qui sont souvent des premières créations des artistes. Et c'est, voilà, c'est plutôt une proposition qui est assez chouette. À la fin de chaque spectacle, il y a des temps d'échange avec les artistes pour aussi mieux comprendre leur démarche, qu'est-ce qu'elles ont voulu faire, qu'est-ce qu'elles ont voulu dire. Je dis elles parce que c'est quasiment que des femmes. D'ailleurs, c'est que des chorégraphes féminines cette année. Je ne sais pas si tu veux qu'on dise quelques mots des spectacles dans le
Bah
cadre de
si, carrément,
Contretemps.
moi
Ouais.
j'allais y venir justement au spectacle de Contretemps. Déjà, dans le festival, vous défendez une création chorégraphique enracinée dans le territoire et connectée au questionnement contemporain. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par enracinée dans le territoire?
Eh bien, je le disais, les artistes qui sont proposés et qui sont présentés dans le cadre de Contretemps, c'est principalement des artistes finistériens. Donc cette année, finalement, il n'y a qu'une compagnie qui vient des Côtes d'Armor, mais c'est pas très loin du Finistère. Voilà, on a une frontière commune. Donc voilà, ancré dans le territoire, c'est vraiment parce qu'on a envie de montrer tous les talents qu'il y a dans le Finistère en matière d'art chorégraphique. Et puis connecté aux questions contemporaines, parce que on va le voir sûrement, les questions qui sont abordées dans le cadre de Contretemps, on a les assignations de genre, par exemple. On a le sort des réfugiés, enfin, on a vraiment toutes ces questions contemporaines qui nous questionnent tous, plus ou moins, qui vont être abordées sous l'angle de l'art chorégraphique. Donc c'est intéressant de voir comment des danseurs, des chorégraphes montrent ça via leur corps. Voilà, ça peut être surprenant, mais je me dis que c'est une ouverture aussi qui peut être intéressante.
En parlant justement des questionnements contemporains, vous mettez en avant des artistes émergents et j'imagine que du coup ça va un peu ensemble. Et par exemple, le spectacle Archétype XXXY, fait par la compagnie Lapsoma, interroge sur le genre et la binarité femme-homme. Pourquoi avoir voulu mettre en avant cette problématique précisément?
Alors ça, il faudrait poser la question à Virginie Salmon, qui est la programmatrice et la directrice, mais je pense que c'est toujours dans cette idée, voilà, tu l'as dit en présentation, Contretemps, c'est un festival de danse contemporaine qui a envie de faire émerger des talents. Et si les talents se posent des questions et ont envie d'aborder des questions de ce type-là avec leur art chorégraphique, c'est dans l'air du temps, et évidemment, on a envie de coller aussi à l'air du temps. Et puis, enfin, je trouve ça assez fascinant en fait de s'emparer de ces questions-là, en se demandant comment le corps, comment le mouvement, comment la danse, on peut retranscrire des choses Enfin, moi, c'est pas du tout mon art, en fait, la danse. Je découvre un peu aussi cette manière d'offrir des choses artistiquement. Et je trouve que c'est assez fascinant de se dire, OK, comment est-ce qu'on aborde la question de binarité avec une performance dansée? Et pour le coup, le spectacle Archétype, je pense qu'il va être super chouette parce qu'en fait, cette compagnie, elle va travailler, enfin, c'est un duo sur scène, donc une danseuse et un artiste plasticien, donc Émilie Rabado et Damien Rouxel. Et donc lui est plasticien et elle danseuse, et ils ont fait leur résidence de création dans des musées, par exemple le musée de Pont-Aven, où il y a plein de tableaux où on voit des représentations hommes-femmes très caricaturales, très archétypées en fait, avec l'homme fort qui a des gros biscottos et la femme qui se cache un peu pudique. Et toute la pièce en fait va interroger, et puis va se moquer aussi de est-ce que vraiment c'est ça être un homme, est-ce que vraiment c'est ça être une femme, est-ce qu'on peut pas essayer de dépasser un tout petit peu ces trucs-là qui ont été peints en 1500 et des bananes. Aujourd'hui, on est en 2025, voilà, et c'est comment la performance artistique peut nous amener vers des cheminements de pensée, des questionnements pour un peu dépasser ce genre de la binarité ou pas. Enfin, on a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit de se poser les questions aussi.
Carrément. Et moi, je me demandais si les artistes ont vraiment carte blanche en ce qui concerne les questions abordées dans leur représentation.
Ah oui, complètement, ouais. Marvel Macorlan, on n'est qu'une salle où on leur permet de présenter leurs œuvres. En aucun cas, on a un point de vue ou quoi que ce soit à dire sur leur démarche artistique. Si on décide de les présenter, c'est que c'est OK. Et voilà, le Macorlan choisit sa programmation en fonction aussi de la sensibilité de notre programmatrice. Hein. Et évidemment, ils font ce qu'ils veulent.
Trop bien. Et qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet ? Je parle du festival, du coup, Contretemps.
Alors, franchement, tu vas encore me poser une colle, mais je pense que c'est un festival qui existe quand même depuis un bout de temps. Et la genèse, c'était ça, c'était de se dire, OK, l'une des missions d'une salle de spectacle de danse, notamment municipale, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont pas beaucoup de sous ou qui ne sont pas encore hyper connus et hyper soutenus. Et donc l'idée de ce festival qui était de donner sa chance ou en tout cas de montrer des pièces qui sont encore jamais montrées, donc peut-être pas aussi travaillées, pas aussi chiadées, pas aussi spectaculaires que certaines grandes compagnies qui ont plein de sous et plein d'expérience. Là, l'idée c'était de dire viens montrer ton travail au Macorlan, qui est une salle hyper qui est une salle professionnelle, hein. Donc aussi bénéficier des conseils de tous nos techniciens lumière, de nos techniciens son, pour améliorer leurs œuvres et puis se présenter quand même devant une salle qui peut faire jusqu'à 450 personnes. Donc, c'est pas rien pour une compagnie qui débute de montrer une pièce à 450 personnes et avec des professionnels dans la salle aussi.
Merci beaucoup, Barbara. On va faire une petite pause musicale, mais on se retrouve juste après. C'est d'ailleurs vous, au Macorlan, qui avez choisi la musique. Il s'agit de Polaire, du groupe des Horizontal Francis. Des bons musiciens, du bon rock dynamique et local, accompagné par un chanteur qui scande des paroles alternant entre humour et confession, c'est la poésie de la simplicité, de la candeur, mais c'est aussi et surtout pas du Johnny et encore moins du Vianney. Bonne écoute sur Radio U.
J'ai encore oublié ma polaire sur un rocher. Comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. C'était une belle polaire verte pomme. Il y avait mes chewing-gums dedans et des lunettes de soleil. Le monde va être plus dur à traverser sans toi, polaire. Je vois bien que vous vous dites... Il va quand même pas faire une chanson sur sa polaire, ce gars. Eh ben si, en fait. Parce que je fais ce que je veux. Je voulais faire une chanson sur ma polaire. Car elle était super et chaude et respirante. Ce qui est plutôt rare. Après un concert, il y a une copine qui m'a dit « C'est dommage que tu dises que de la merde dans tes chansons. » Ben Mazué, lui, il parle de sujets plus profonds, comme de sa paternité. Alors voilà, j'ai deux enfants. Il y en a un qui a 3 ans et l'autre qui a 7 ans. Dans un an, ils auront tous les deux un an de plus. C'est vraiment des enfants de qualité. Et ma polaire aussi, elle était de qualité. Je voulais faire une chanson. amis. Je suis arrivé, la marée l'avait emporté au loin. Elle dérivait nonchalamment dans le chaînage de l'île de Bas. Bonne polaire, pour moi, tu ne seras jamais finite.
Francis, le coup de cœur du Macorlan. On est de retour sur la radio U 101.1 avec Barbara du Macorlan. On parlait du festival Contretemps, un festival de danse que vous organisez en octobre. Comment on peut prendre son billet ?
Alors c'est tout simple, pour prendre son billet, il suffit d'aller sur notre site, donc mac-orlan.brest.fr, et là vous découvrirez un lien pour aller sur notre billetterie. Et c'est hyper facile. On a la même billetterie que plein d'autres lieux culturels de Brest. Je pense à la Carène, je pense à Plage Magnétique. Donc, si vous avez l'habitude de prendre des billets, mais sinon, c'est bête comme chou, vous sélectionnez le tarif réduit. Et voilà, vous avez votre place. Et j'en profite pour dire que ceux qui veulent voir Archétype, c'est dans une soirée commune le vendredi 10 octobre. Il n'y a bientôt plus de place puisqu'il n'y a que 100 places disponibles. Donc, on est bientôt complet sur cette soirée du vendredi 10 octobre. Donc, n'hésitez pas à vite aller sur la billetterie du Macorlan et à prendre votre place.
Voilà, il faut être vif. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur un autre spectacle qui se passe pendant ce festival. Donc, c'est Trémolo, qui fait par la compagnie Haïm et qui questionne la construction et la permanence du mythe de la Méduse, la femme dont le regard pétrifie. Comment ce mythe, ancien et ancré dans l'imaginaire collectif, peut-il être remis en question d'une manière plus actuelle ?
Alors, c'est une bonne question. Alors effectivement, le spectacle Trémolo, il va être donné le lendemain, le samedi 11 octobre, et j'ai vu le spectacle, et moi j'ai adoré. En fait, c'est un duo de danseuses sur scène, et effectivement, ils prennent appui sur le mythe de Méduse, donc cette femme-là qui pétrifie les gens qui la regardent dans les yeux. Et en fait, la chorégraphe Émilie Philippot s'est dit, mais finalement... Comment cette femme qui est devenue Méduse, elle est assignée à tous les genres. D'un côté, elle est monstrueuse. D'un côté, on l'a dit femme fatale. Souvent, elle est représentée comme une femme magnifique, mais hyper dangereuse. Personne ne peut la regarder. Et donc, elle s'est dit, mais il y a quand même plein d'assignations qui sont charriées par ce mythe. Et elle a envie un peu de les remettre en question, en tout cas de les interroger toujours à travers son art, à savoir l'art chorégraphique. Et enfin, moi, en ayant vu le spectacle, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle nous propose vraiment... Alors, je ne vais pas vous spoiler parce qu'il faut venir le voir le samedi 11 octobre au Macorlan. Mais c'est vraiment fascinant de voir comment est-ce qu'elle aborde cette question de... elle est tout et son contraire, Méduse, et comment avec son corps, du coup, sa danse, en fait, elle va se moquer de ce mythe et elle va, in fine, nous aider à nous dire, ok, bon, bah, Méduse, c'est peut-être pas que ça ou c'est peut-être pas ça, tout simplement. Et enfin, je ne sais pas trop comment en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, ce spectacle. Donc, je vous encourage vivement à venir le voir samedi 11 octobre sur la billetterie du Macorlan.
Et bon, du coup, c'est pas toi qui as fait le spectacle, du coup, tu sais peut-être pas, mais pourquoi avoir choisi le mythe de la Méduse précisément ?
Alors ça, effectivement, il faudrait poser la question à Émilie qui a été la chorégraphe, mais je pourrais avoir discuté avec elle. Justement, en fait, elle, au début, je crois que son questionnement, c'était autour des mythes. En fait, elle trouvait ça fascinant de comment des histoires qui ont été racontées il y a des millions et des millions d'années peuvent encore aujourd'hui nous traverser. Et au-delà de nous traverser, continuer à un peu créer des obligations. Et elle se dit, bon, bah ok, quel mythe est hyper fort et qui aujourd'hui a des conséquences concrètes dans nos vies ou dans nos manières de percevoir la société. Bon, bah, le mythe de Méduse autour de cette femme à la fois fatale, à la fois dangereuse, à la fois qu'on ne regarde pas, qu'on oublie et en même temps on ne fait que parler d'elle. Je pense qu'encore une fois, on le disait par rapport au questionnement un peu contemporain des genres, des assignations, de la binarité des hommes, des femmes et de toute cette agitation autour de ces questions. Je pense que ça l'a inspirée et ça l'a bien inspirée.
C'est trop bien. Ça me donne vraiment envie.
Eh bah, ben, vas-y. 9 € la soirée.
Ah bah, c'est carrément abordable. Le festival Décadence, maintenant, j'aimerais bien qu'on l'aborde aussi, aura, lui, lieu du 17 au 31 janvier. C'est la 5e édition. Il y aura 3 sessions d'ateliers, dont un parent-enfant, qui s'appelle « Bonjour la danse, au revoir le regard ». J'imagine que pour les grands comme les petits, le track peut facilement prendre place quand on s'apprête à danser devant quelqu'un. Pourquoi avoir voulu aborder cette problématique au Macorlan ?
Alors ça, effectivement, c'est un atelier qui est proposé par une chorégraphe qu'on aime beaucoup au Macorlan, qui s'appelle Lucie Lintenf, et donc qui est danseuse, qui est chorégraphe. Et elle, son questionnement, c'est d'où ça vient la danse et pourquoi est-ce que certains sont hyper à l'aise et pourquoi d'autres ne le sont pas. Et en fait, plein de gens disent « Oh, moi, j'aime pas danser. Oh non, mais j'ai trop honte. Voilà, je reste assis, machin. » Alors qu'en vrai, tout est dansé, en fait. Et il y a plein de manières de danser. Et quand on se libère du regard, en fait, et ben, on se rend compte que même faire un petit claquement de doigts et bouger l'épaule, c'est de la danse. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui intéresse Lucie. Et dans ses ateliers, elle va un peu aborder ces questions-là, et voilà, en proposant des petites astuces, des petits trucs, un atelier de danse pour aider à être peut-être plus à l'aise dans son corps, ou en tout cas se sortir de ce regard et se dire « Ok, en fait, on peut aussi danser rien que pour soi. » Et c'est pas toujours une performance, en fait, la danse. Et j'en profite pour dire que Lucie, elle a fait un spectacle exactement sur cette thématique qui s'appelle « Danse de chambre » et qui est proposé dans le cadre de Contretemps. Alors, je reviens un peu en arrière, mais c'est le samedi 18 et c'est chez notre partenaire à Plouguerneau. Alors, c'est pas à Brest. Attends, je vais pas te dire des bêtises sur le lieu. Mais voilà, si cette question-là, un peu de comment est-ce qu'on dépasse le regard de la danse. Donc voilà, le spectacle s'appelle « Danse de chambre » et c'est donné à l'Armorica de Plouguerneau le samedi 18 octobre, en lien avec Contretemps toujours. Donc pour les plus curieux de son travail sur cette question-là, du regard, de la danse, de comment on danse en fermant les yeux, danse de chambre à découvrir à l'Armorica.
Et du coup, justement, c'est la problématique. Pourquoi c'est important pour vous que le Macorlan soit un lieu où on peut venir danser même si on n'est pas danseur ?
Mais parce que la danse, ça réunit, parce que la danse, c'est de l'expression, parce que c'est un peu l'ADN du Macorlan, de vouloir être un lieu de création, d'expression, si possible de rencontre. Et puis c'est un espace de liberté, la danse aussi. Donc moi, je ne suis pas une grande danseuse, mais on a tous dansé en soirée. On s'est tous éclatés sur de la musique et on sait à quel point ça fait du bien, en fait. Et si on peut le faire tous ensemble et aller un peu mieux tous ensemble après ça, on veut participer à ça au Macorlan.
Trop bien. Maintenant, parlons un peu de Racines chorégraphiques, le festival Le Temps Fort, du 20 au 24 octobre sur le hip-hop. Donc le jeudi 25 octobre, dès 15h, il y a une déambulation hip-hop à vélo ouvert à tous. C'est quoi une déambulation hip-hop, en fait ?
Alors, Racine Grégrapie, effectivement, c'est le temps fort hip-hop du Macorlan avec une association brestoise qui s'appelle Kawan. Et le premier temps qu'on propose, c'est effectivement une déambulation hip-hop. Alors, ok, vélo. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Franco, qui est d'une compagnie rennaise qui s'appelle Engrenage. Et il a un gros vélo avec une grosse enceinte et il va mettre du gros son. Et il va inviter les gens à danser. Et lui, en fait, ce qu'il adore, c'est pas être dans un lieu où les gens ont l'habitude de danser, mais c'est de se mettre dans un parking du Super U, de se mettre dans le parking de la Cité U, en bas d'un bâtiment ou d'une cité, et de proposer de la danse comme un truc qui réunit, un truc fun, et qui réunit les grands-parents, les enfants, etc. Et voilà ce qu'il va proposer, Franco. Et le parcours qu'on va faire dans cette déambulation vélo, c'est tout au niveau de la rive droite. Donc, on se donne rendez-vous dans les Maisons pour tous et les patronages laïcs. Et ça se finit sur le belvédère des Capucins. Et donc là, voilà, l'idée, c'est quelqu'un qui sait danser, qui est super doué pour faire danser les autres, avec de la musique, et il va reproduire des mouvements. Et l'idée, c'est qu'il va inviter tout le monde à danser avec lui. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez aller sur le site du Macorlan. Il y a le teaser de ce qu'il propose. Et franchement, ça donne envie. Et si vous voulez suivre la déambulation vélo si vous êtes des cyclistes. Du coup, tu l'as dit, c'est le 23 octobre. Et le premier rendez-vous, c'est au patronage laïque de Jean Le Gouil. Donc voilà, si vous tapez ça sur Google, vous trouverez. Ou sinon, rendez-vous au belvédère des Capucins, je pense que vers 16h30. Là, ça devrait être un peu le gros moment. Et s'il fait un temps vraiment pas possible pour faire du vélo, ce sera rendez-vous aux Capucins.
Je pense que la bonne ambiance y est garantie.
Absolument.
À la fin de la journée, rendez-vous 20h au Macorlan pour le spectacle 4.3. C'est comme ça que ça se dit ?
4.3.
Spectacle où les artistes se réapproprient le vocabulaire du locking, qui est un type de danse funk du début des années 70 à Los Angeles. Pourquoi avoir voulu mettre en avant le locking ?
Eh bien, parce que Macorlan, on montre toutes les esthétiques de la danse, je l'ai dit. Et quand on pense danse hip-hop, on pense beaucoup au break, à tout l'imaginaire qu'on a. Mais en fait, c'est une discipline qui est hyper large. La danse hip-hop, elle est vraiment super variée. Et le locking, c'est une des disciplines qui va beaucoup aussi s'intéresser au rythme de la musique. Et là, ces deux artistes, je crois qu'ils sont rennais aussi, 4-3. C'est un de leurs premiers spectacles qu'ils ont fait tous les deux. Voilà, c'est deux danseurs, Andrej et Seren, qui, donc le Patchouli-King, c'est aussi un style de musique hip-hop. Et ils ont voulu accompagner cette musique particulière du hip-hop avec une danse qui, elle aussi, est très... c'est pas robotique, mais c'est vraiment lié au rythme, en fait. Et là, pareil, si vous voulez voir un teaser, donc voir un peu ce que ça donne, pareil, sur l'agenda du Macorlan, vous allez voir la page du spectacle 4-3 sur notre site. Vous verrez un peu ce que ça donne, mais c'est hyper sympa. Enfin, si on aime découvrir aussi des choses un peu nouvelles en lien avec le hip-hop, je vous conseille 4-3.
Vendredi 24, il y aura une battle de hip-hop. 8 équipes qui vont s'affronter sous l'œil de 4 juges experts. Comment êtes-vous rentré en contact avec les artistes ?
Alors là, pour le coup, c'est notre partenaire sur notre temps fort hip-hop, donc l'association Kawan. C'est la 4e édition de Racine Chorégraphie avec cette association. Et ta danse de prédilection, c'est le breakdance. Et le breakdance, évidemment, il y a des battles. Et là, il y a une ambiance de folie. Et là, c'est plutôt l'asso Kawan, du coup, qui est en contact avec des artistes locaux, pas locaux, mais connus, reconnus et qui savent faire du hip-hop et qui savent ambiancer à fond ces soirées. Donc souvent, c'est juste le feu. La scène du Macorlan, c'est vraiment... c'est hyper ambiancé, c'est super chouette. Il y a de la musique, il y a un MC, il y a des gens qui dansent. Et c'est vraiment très, très chouette. Si on aime les grosses ambiances de battle, il faut participer à la battle du Macorlan.
Et est-ce que les gagnants auront un prix ?
Alors, je crois que le grand prix, c'est de participer à un grand événement hip-hop à Quimper. Alors c'est pas une convention, mais je crois que c'est un autre vraiment truc assez important. C'est Culture Hip Hop Festival à Quimper. Donc là c'est un truc à l'échelle régionale pour présenter sa danse hip hop à une plus grande échelle.
Et est-ce que le public peut donner son avis sur le gagnant ?
Je pense que plus ça crie, plus ça applaudit, plus les gagnants sont fortement gagnants.
Okay, y a quand même
il faut de l'ambiance, ouais.
Il faut des gens, donner vos avis.
Exactement.
Et merci beaucoup d'être venue, Barbara.
Avec plaisir.
On peut retrouver toutes les informations, l'actualité du Macorlan sur votre site internet.
Ouais, sur Instagram pour ceux qui ont Instagram, sur Facebook pour ceux qui ont Facebook, et sinon mac-orlan.brest.fr.
Super, merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.
Merci pour cette interview. Maintenant, on va traverser la Manche pour écouter celui qui a commencé à sortir de Luke et Garage, dans l'anonymat le plus complet au début des années 2000, un discret et un introverti, mais surtout un passionné anglais de breakbeat et de samples. Il s'agit de Phony Glow de Burial, remixé par Santé en 2024, compositeur d'Argentine. Bonne écoute sur Radio U. Thank you. de synthé de Phoniglo de Burial. L'original est sorti sur le label londonien Hyperdub, disponible sur Bandcamp. Pour terminer cette émission, on va écouter un reportage de SAM, notre service civique, un reportage qui évoque la question de l'art et la politique, plus précisément les slogans dans les manifestations. Une immersion en plein cœur de la manifestation du 18 septembre qui s'est tenue à Brest. Aujourd'hui, on est le 18 septembre. Là, on est à Place de la Liberté à Brest, dans le cadre du mouvement Bloquons tout. Pour faire la manifestation, il y a eu un appel intersyndical. Donc là, autour de nous, il y a tous les syndicats, il y a la foule, il y a les étudiants. On se prépare pour la manif de 10h30. Donc nous, on s'apprête à aller poser des petites questions aux gens qui sont présents, pour les questionner sur l'art dans la manif, comment ça se passe. Souvent en manif, on entend des musiques, c'est vrai que ça met une bonne ambiance. Pour vous, c'est important cette bonne ambiance qu'engendrent les musiques en manif?
Oui, voilà, la musique, disons que ça transcende un peu les gens aussi, parce que dans le silence, ça fait un peu silence de cathédrale, donc automatiquement, on est en manif pour se faire entendre. Donc la musique, ça, même les slogans, même antisocial, ça veut tout dire, quoi. Donc après les manifestants, suivre la musique et ça motive les troupes.
Et vous savez un petit peu comment sont choisies ces musiques au préalable?
Déjà on regarde déjà les compositeurs qui sont plutôt une partie de gauche aussi, parce que bon voilà, antisocial, voilà. Et c'est surtout en manif, il faut que ce soit avec des basses et trucs comme ça, pour que ça résonne, quoi. On va pas mettre un slow en manif, quoi. Il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit les paroles aussi reflètent un peu les mouvements sociaux. C'est ça, on va pas passer n'importe quelle musique, quoi. Il faut que ça reflète la population en lutte. Et on va gagner. On va virer Macron.
Pour vous, c'est une forme d'art de faire des pancartes pour les manifs?
Ouais, c'est une façon à moi de contribuer au mouvement, à la pensée du moment, quoi. Voilà. Et d'exprimer en quelques mots ce que je pense, quoi, gentiment.
Comment vous avez trouvé ces phrases?
En fait, par hasard, en lisant, notamment celle-ci, c'est une citation d'Albert Camus.
Voilà. Je vais lire ce qui a marqué. « Il ne s'agit pas de refaire le monde, mais d'empêcher qu'il ne se défasse. » Citation d'Albert Camus. Et donc il y a des couleurs, c'est pour que ce soit visible.
Visible et joyeux.
Joyeux.
Voilà.
Pour vous, c'est important d'apporter de la gaieté dans une manifestation?
Si on peut amener de la couleur quelque part, voilà, moi je trouve ça, c'est une façon de résister aussi. Voilà, la couleur, la gaieté, il faut que chacun amène un peu sa goutte d'eau, quoi.
En tant que militant, vous trouvez ça important, la place de la fanfare dans,
oui,
une manif?
Oui, parce qu'on a estimé que notre présence était là aussi pour accompagner les manifestants, quoi. Et, ouais. Et donc après, l'origine de la fanfare invisible, ça a commencé à Paris, en fait. C'était un médecin, je crois, hein, qui avait lancé le truc. Un petit groupe de musiciens, en fait, qui un jour, et qui sont quand même bien à gauche, hein, qui ont décidé d'accompagner les mouvements sociaux.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ici à Brest, ça fait depuis 2018.
2018?
Ouais.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir jouer en manif comme ça?
C'était déjà, c'est pour au niveau de la manif, c'était pour arriver aussi à mettre de l'ambiance, hein, parce que c'est vrai que faire des circuits sans mot d'ordre ou sans rien, enfin, ou des trucs, c'est un peu éparpillé, chacun y va de son petit mot d'ordre. Et nous, on s'est dit, tiens, mettre de la musique et tout. Et puis à l'époque, il y avait aussi des troupes de théâtre, hein, qui avaient commencé aussi à essayer de colorer un peu les manifs. Hein. C'était sympa, quoi.
La musique, ça donne de la force. Et pour vous, c'est important, la place de l'art dans les manifs ?
Ben oui, parce que en fait, on s'est pas mal investi aussi quand il y a eu les manifestes, enfin, pendant la période Covid, hein, où le culturel était mis à mal. Hein. Donc ici, sur Brest, il y a eu un tas de manifestations. Et on a estimé que notre présence était aussi importante, hein, pour défendre la culture. Hein.
La manif vient de se terminer, on est au château. Il est presque 13h déjà, ça passe vite. Et voilà, la manif s'est finie dans la bonne ambiance, avec la fanfare qui jouait, des gens qui dansaient, c'était super joyeux. Voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de violence policière, en tout cas moi j'en ai pas vu. Merci d'avoir écouté Radio U, la 101.1, c'était C'est vous qui le dites. Vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos émissions de la radio en podcast sur notre site radio-u.org. À demain 18h pour C'est vous qui le dites. Bonne soirée!